17h24 minutes, eh bien, il y a un concert de critiques contre Air Canada depuis cette annonce de l'abolition indéterminée là, dans la durée, dans le temps, des vols régionaux. François Gagnon, toi, tu as envie d'apporter un petit bémol dans ce concert de critiques.
Et j'aurais été curieux. Là, vous parliez de Jean Lapierre, mais il ne faut quand même pas oublier que Jean Lapierre a été ministre des Transports.
Oui, absolument.
À partir de 2004, avec Paul Martin. Et disons que si j'en connaissais un qui était détracteur d'Air Canada, c'était bien lui, Jean Lapierre, parce qu'à chaque fois qu'il faisait un mauvais coup, on peut dire qu'il leur tapait sur la tête. Et il aurait eu raison de leur taper sur la tête de la façon dont ils ont annoncé la fin des 30 routes cette semaine. Sauf que j'écoutais Mehram Ebrahimi hier et il y avait un autre son de cloche que je trouvais pas mauvais non plus, dans le sens où on faut demander de l'aide de la part du gouvernement fédéral parce que toutes les compagnies aériennes au niveau international ont reçu de l'aide. Et pour l'instant, Air Canada, comme WestJet, comme les autres transporteurs qui font du transport régional, n'ont pas reçu beaucoup d'aide, sauf la subvention salariale d'urgence. Alors, quand ça coule à coût de 25, 30, 40, 50 milliards parmi les gouvernements pour aider leur propre compagnie aérienne, comme c'est le cas aux États-Unis, en Europe pour Air France KLM ou encore Lufthansa, il y a question à se poser et j'écoutais le premier ministre Trudeau ce matin qui s'indignait de voir Air Canada qui, tu sais, dans ses grandes phrases... là.
Oui, mais disait, il fait rien en même temps.
Ben c'est ça, c'était des phrases creuses. Oui. C'est faut le dire de même, là. Il dit, ben là, on espère qu'avec la reprise de l'économie... Tu sais, regarde, ça finissait plus, là.
Oui. Non, Madame Leboutier avait gestes, l'air plus scandalisée, disons.
Oui, mais ça prend des gestes concrets. Et j'écoutais Scott Moore cet après-midi à CBC qui disait, ben là, garde le fédéral, va falloir que vous aidiez Air Canada parce que ça peut pas durer éternellement cette histoire-là. Nous, avec le prix du pétrole qui est à la baisse, tout comme l'Alberta ou encore Terre-Neuve, on a besoin d'un transporteur pan-canadien parce qu'on a beaucoup de compagnies qui sont exportatrices et on a besoin de ce transport, ce genre de transport-là. Sauf que là, faut s'organiser. Et d'autre part, au Québec, on fait des gros plans, là. J'entendais les politiciens hier dire, ben là, faut se servir de nos compagnies régionales, tout ça. Mais Ebrahimi, lui, a amené une autre son de cloche dans le sens où nos compagnies aériennes, oui, qui sont bonnes, mais ils ont du matériel qui est très vieux.
Oui, ça c'est vrai.
Hein? Il y a des avions là-dedans là, qui ont plus que 25 ans. Donc, il va falloir renouveler la flotte, remettre ça en ordre, mettre... là, TAPAL Airlines, qui est associé à WestJet. On oublie WestJet là-dedans, là, parce que WestJet fait du transport aussi. Là. Hein? Il en fait du transport régional aussi. Alors donc, il y a peut-être WestJet qui pourrait prendre la relève avec PAL Airlines, avec des appareils qui sont un petit peu plus gros que les Beechcraft à 17-18 personnes. Là. D'ailleurs, le ministre des Transports hier du Québec le mentionnait, s'il faut faire quelque chose, il va falloir passer par les finances, donc par le ministre des Finances ou encore par Pierre Fitzgibbon de l'Industrie et Commerce, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne pourra pas survivre ou avoir une compagnie aérienne qui se tient comme telle sans avoir une flotte qui se tienne debout aussi. Alors donc, il y a bien des choses, mais ça ne m'empêche pas de lancer des roches aussi les plus grosses à Air Canada.
En effet. Écoute, on revient sur ce sujet du Cirque du Soleil.
Oh, les ça créanciers, finira plus, ça.
Ben non, ça se complexifie. Comme diraient certains.
Et même, je dirais que moi, il dirait que ça se morpionne. Écoute, non, ça n'a pas de bon sens. Écoute, puis je comprends un peu la rage de bien des gens. Là. Entre autres, Catalyst Capital à Toronto qui dit, garde, moi, je suis créancier garanti là, avec d'autres, là, et on détient presque 1 milliard de dettes à nous seuls, et on est garanti. Alors, nous aussi, on veut être entendus et semble-t-il qu'ils auraient fait une offre qui n'ont pas été entendue parce que celui qui a fait l'offre, ou c'est le consortium qui a fait l'offre, c'est les propriétaires actuels. Alors, nous, ils disent, nous, on garderait tous les employés, on n'a pas besoin du 200 millions, puis on poursuit le cirque tel qu'il est, on garde le siège social à Québec. Là, il y a le processus de aux enchères. Il y a l'autre problème aussi, là, que moi, j'ai été déçu un petit peu cette semaine. Lundi, je t'avais dit que Daniel Lamarre, moi, je partirais demain matin avec lui, là.
Oui.
J'ai pas changé d'idée, sauf que je mets un petit bémol. Dans le sens qu'il va falloir qu'il nous dise les vraies affaires aussi en même temps, là. Parce que lundi, il nous a dit, le Cirque du Soleil était rentable jusqu'à la toute fin, jusqu'avant la COVID, et qu'on avait 1 milliard de dettes. Le lendemain d'un papier de course, c'est pas ça que ça dit pas tout, là.
On était dans le 2 milliards.
Trois ans de dette, 3 ans de perte à la hauteur de 160 millions et 2 milliards de dettes. Là, ça marche plus, là. Ça veut dire que cette compagnie-là était extrêmement fragilisée.
Et pourquoi ça n'a pas sorti avant?
Ben, c'est parce que c'est une compagnie privée. Tu sais, c'est pas en bourse, ça, là. Alors, ils gardent ça chez eux, là. Mais là, quand tu t'en vas te demander la protection des créanciers, ben là, faut que tu déposes des documents. Alors, là, on est en train de puis là, la guerre est en train de prendre entre Pierre-Carl Péladeau et Mitch Garber. Je sais pas si t'as vu ça sur Twitter, là.
J'ai vu ça, absolument.
Hey, écoute, il dit, la vérité comptable, celle reconnue par des professionnels de qualité, démontre hors de tout doute la direction de Daniel Lamarre et Mitch Garber a été plus que déficiente. C'est le baratin de la direction. Faut sauver le cercle et ses talents.
Ouais.
Ça, on le sait.
Il y a la réponse de l'autre aussi.
Oui, ils ont parti pris. L'autre répond, ben oui, mais c'est bien beau, là. Mais moi, là, ça aurait été pas mal plus facile avec beaucoup moins de risques si mon papa me donnait ma compagnie quelques milliards. Malheureusement, j'ai dû bâtir en partant de rien. T'as toujours été un gars né au troisième but en pensant que t'as toujours fait un triple. Disons que ça vole pas haut, là. Moi, c'est pas le genre de choses que je veux voir arriver au Cercle du Soleil, que ça se règle par Twitter. Je comprends la frustration de Pierre-Carl Péladeau qui a déjà dit, et très ouvertement, il y a plusieurs semaines d'ailleurs, avant même qu'on se place sous la loi des créanciers, qu'on veut... il est intéressé à mettre la main sur le Cirque du Soleil, mais il va falloir que ça se fasse autrement, je pense.
Oui, en effet. Voilà. Mais la chicane n'est pas finie. Bon.
Non, ça c'est clair.
Écoute, je veux que tu nous dises quelques mots sur le mariage entre la Capitale et la SSQ, mais après, très important, je veux que tu nous parles de nos régimes de retraite.
Oui, très important. Ah oui, pour Air Canada, tantôt, il y a une question, là, pas Air Canada, le Cercle du Soleil, je suis en train d'oublier, là. Il y a plusieurs de nos auditeurs qui sont des employés du Cercle du Soleil qui vont recevoir 5 semaines de paye, là, parce qu'ils font partie des 3 500 qui perdent leur emploi. Alors, on me demande, est-ce que j'ai le droit à la PCU quand même, parce que c'est une paye de vacances qui me devait avant la PCU? Non. Malheureusement, ça fonctionne comme l'impôt. Si vous êtes payé, par exemple, vous avez travaillé les 2 dernières semaines de décembre, vous allez être payé au mois de janvier, ben l'impôt sera payé en 2020. Okay? OK? Alors donc, c'est la même chose pour la PCU. Vous allez recevoir votre PCU au mois de juillet, par exemple, votre prime de départ au mois de juillet. Malheureusement, vous ne pourrez pas demander la PCU pour le mois de juillet. Il va falloir retarder au mois d'août. Voilà.
OK, mais ça sera possible, mais plus tard.
Bon. Oui, plus tard.
D'accord. Alors, Capitale SSQ, le mariage est officialisé.
Oui, c'est la cérémonie a eu lieu aujourd'hui. Ça faisait longtemps.
Et la mariée était belle?
Oui, tout à fait. On dit que les fiançailles ont été annoncées il y a déjà un bon bout de temps.
C'est vrai.
Oui. Et là, c'est confirmé, c'est officialisé. On va changer de nom. On ne sait pas quel nom ça va porter. Est-ce que ça va être la Capitale SSQ, la SSQ Capitale ou carrément un autre nom? Alors donc, ça va faire quand même gros comme compagnie. Là, ça va être une très grosse. C'est une des plus grandes mutuelles au Canada avec 3,5 millions de membres et clients, 4 700 employés, 20 milliards sous gestion et des primes évaluées à 5 milliards de dollars. Ça va être une très, très belle entreprise. Alors, ça va demeurer au Québec. Le siège social demeure à Québec parce que les deux, et SSQ et la Capitale était à Québec. Et le président actuel de la Capitale va devenir donc celui qui va chapeauter cette nouvelle entreprise-là. Et Jean Saint-Gelais, qui était, lui, directeur général... Jean Saint-Gelais était donc de SSQ... Jean-François Chalifoux. Bon, je suis en train de tout mêler les affaires, là. Il était le président directeur général de SSQ Assurance, devient donc président et chef de la direction. Et Jean Saint-Gelais, qui était, lui, à la Capitale, ben lui est nommé au président du conseil d'administration. Ça va être une très, très belle entreprise. Écoute, là, au Québec, là, c'est le premier assureur collectif. Ça va être le premier et le quatrième au Canada. C'est une très, très grosse entreprise.
C'est bien que ça reste ici aussi en même temps, puis ça reste à Québec aussi. Bon, est-ce qu'on doit craindre une perte dans nos régimes de retraite? Parce qu'il y en a pas mal qui sont inquiets, là.
Oui, ben c'est parce qu'il y en a plusieurs qui ont vu ce qui s'est passé avec les fonds de solidarité, puis fonds FTQ et le fonds d'action avec des petites pertes. Hein, on l'avait dit qu'il y aurait des petites pertes, là, ça n'a pas été énorme. Là. Sur l'année, ça a été quand même bien. Tout le monde s'en est bien sorti malgré cette crise-là. Sauf que dans les fonds de pension, ben on s'est retrouvé gros gens comme devant. Là aussi, on subit donc les pressions des marchés boursiers. mais en même temps, on subit les hausses des marchés boursiers. Et je disais, et je l'ai répété pendant 15 semaines, au moment où on a eu le crash le 25 mars dernier, où ça, on perdait tout le monde à peu près 25%, là, on s'est repris lentement, mais sûrement. Au mois de mars, là, on était à une capitalisation, selon l'indice Mercer, de 93%. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour une entreprise qui a un régime à prestations déterminées, ben, si la compagnie faisait faillite, t'avais 93% de ce que tu devais recevoir à ta pension. Sauf que là, avec ce qui s'est passé sur les marchés, avec la reprise qui est en train de s'observer sur les marchés boursiers, on est rendu à 101%. Donc, il n'y a plus de problème sur les fonds de pension. Excellent. Là, à l'heure actuelle. C'est une excellente nouvelle,
ça. Très, très bonne nouvelle. Il me semble que c'est une belle nouvelle de finir la chronique.
Voilà. Tout à fait.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup.
Bon week-end.
Bon week-end à toi aussi, François.
À lundi, je t'embrasse.
À lundi, je t'embrasse aussi. On s'arrête et après la pause, ben, on va se demander qu'est-ce qu'on fait ce week-end.